Économie et politique, c'est la chronique de Philippe Jurgensen.
Le risque est capital. Les Français aiment de moins en moins prendre des risques. Le principe de précaution, c'est-à-dire l'obligation de se prémunir contre tout risque environnementaux et sanitaires, même ceux qui ne sont pas avérés mais simplement potentiels, vient d'être inscrit dans notre Constitution. Dans le monde du travail, chacun recherche l'emploi à vie. Et nos concitoyens qui défilent dans la rue contre la précarité ne sont guère enclins non plus à la flexibilité, c'est-à-dire à la mobilité géographique ou professionnelle. Notre réglementation financière, elle-même, impose aux organismes détenteurs de fonds d'épargne de prendre le minimum de risques et de privilégier les placements sécuritaires. Cette aversion au risque, comme disent les économistes, est très fâcheuse, car le risque maîtrisé est consubstantiel à l'économie de marché. Il est vrai que, justement, selon les sondages, 70% des Français seraient hostiles à l'économie de marché. L'un explique peut-être l'autre, mais ce n'est pas plus rassurant pour autant, on l'admettra. Demandons-nous d'abord pourquoi l'économie a besoin que l'on prenne des risques. Prendre un risque, c'est accepter d'envisager l'avenir avec ses aléas, mais aussi avec toutes les opportunités qu'il offre. Pour un entrepreneur, c'est accepter le défi de lancer un produit nouveau, un service original. Il peut échouer, évidemment, mais s'il réussit, c'est l'assurance de conquérir des parts de marché. Les cycles économiques reposent précisément sur ce processus que le grand économiste autrichien Schumpeter appelait la destruction créatrice. Chaque produit apparaît d'abord comme une nouveauté, il s'étend pour atteindre une phase de maturation, puis connaît un déclin progressif avant d'être relayé par d'autres. On en voit des exemples frappants dans le domaine des supports musicaux. Des 78 tours au micro-sillon, aux cassettes, puis au CD, puis au baladeur MP3 nourri par Internet, comme de la télévision, du noir et blanc à la couleur et aux écrans plats, maintenant à la TV haute définition et bientôt au tout numérique, ou des transports, de la locomotive à vapeur au TGV et bientôt au train à sustentation magnétique comme le maglev, ou encore de la médecine, où le génie génétique, la chirurgie mini-invasive, le télétraitement remplacent peu à peu les thérapies nécessitant des équipements de proximité lourds. Ce processus repose fondamentalement sur des grappes d'innovation qui sont la clé de la croissance future. Aujourd'hui, si les pays scandinaves, par exemple, connaissent une croissance plus forte et plus solide que la nôtre, c'est parce qu'ils consacrent beaucoup d'efforts à l'innovation. Suède, Finlande, Danemark ont un taux de recherche-développement d'environ 4% du produit national, presque double du nôtre. Et ils acceptent à plein les risques que comportent la recherche et l'innovation. À l'inverse, les défaillances sérieuses de notre commerce extérieur depuis 2 ou 3 ans tiennent en bonne partie au fait que nous sommes cantonnés à nos secteurs traditionnels d'excellence sans assumer le risque de la conquête de nouveaux marchés et de nouvelles technologies. La traduction financière de cette frilosité française se montre par notre grande difficulté à prendre en compte le couple risque-rendement. Obnubilés par le risque, nos financiers oublient les opportunités, c'est-à-dire le fait qu'en économie de marché, quand le risque est plus élevé, la rémunération qui s'y attache en cas de succès est également plus importante. D'où la mauvaise réponse aux besoins en fonds propres des jeunes entreprises innovantes qui, malgré un climat général hostile au risque, essayent de se développer et de prospérer sur notre sol, car comme chacun le sait, en France, si on n'a pas de pétrole, on a des idées. Malheureusement, même un projet brillant, avec des produits très performants et un excellent plan de développement, n'obtiendra pas de financement s'il n'a pas pu présenter une garantie de fonds propres suffisant, ce que les anglo-saxons appellent le collatéral. Or, il est très difficile de trouver ces fonds propres si nécessaires. Il existe pourtant quelques bonnes fées qui se penchent sur le berceau des jeunes entreprises, des incubateurs, des fonds d'amorçage, des organismes régionaux de capital investissement se sont multipliés ces dernières années, souvent avec l'appui des pouvoirs publics. Mais ces bonnes fées sont encore bien trop peu nombreuses. Pour prendre ce seul exemple, on compte en France environ 5000 business angels, ces entrepreneurs qui ont réussi et qui sont prêts à en aider d'autres en investissant à la fois leur argent pour les aider à constituer un capital de départ et leur temps pour les conseiller. Ces mêmes business angels sont 10 fois plus nombreux en Grande-Bretagne et près de 100 fois plus nombreux aux États-Unis, où on en compte environ 400 000. Dans cette situation difficile, les derniers chiffres qui viennent d'être publiés par l'Association française des investisseurs en capital, l'AFIC, apportent un rayon d'espoir. Ils semblent en effet marquer un progrès spectaculaire puisque les levées de fonds ont été multipliées par 5 et que les investissements dans les entreprises non cotées, ce qu'on appelle le private equity, ont atteint le montant respectable de 8 milliards d'euros l'an dernier, dépassant le record précédemment atteint en 2000. Nos financiers seraient-ils enfin devenus moins hostiles au risque? En partie seulement. En effet, si l'on se penche sur le détail des chiffres, on constate que les 4/5 de ces investissements de l'an dernier se sont dirigés vers la transmission d'entreprises à travers les LBO, c'est-à-dire le rachat d'affaires sur fonds empruntés. 15% environ ont été au développement de PME existantes et 6% seulement, soit 489 millions d'euros, à ce qui correspond véritablement à la notion de capital risque, venture capital pour les anglo-saxons, c'est-à-dire la création, le démarrage et le premier tour de table d'entreprises nouvelles. Sur ce créneau, le plus décisif pour l'avenir, nous sommes malheureusement encore en retrait de 60% par rapport au niveau atteint en 2000 avant l'éclatement de la bulle Internet, et le nombre de start-up financées en 2005 a même diminué par rapport à 2004. Comment conclure autrement qu'en disant « Français, encore un effort !» Nous avons toute une culture d'hostilité au risque à changer, alors que le risque, c'est la vie et c'est la condition de la croissance. Mais nous avons aussi la possibilité de développer, comme nos voisins, des incitations fiscales et juridiques plus efficaces à la prise de risque par ceux, et ils sont nombreux si l'on en croit les enquêtes d'opinion, qui ont des projets de création d'entreprise et qui sont prêts à prendre ce pari si important de l'innovation. »